131, à partir de la deuxième strophe.
Thank you. depuis le verset 4. Page 620.
Verset 20.
Oui. Et je priai l'Éternel mon Dieu, et je fis ma confession, et je dis, je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment, et qui garde tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, et nous nous sommes rebellés, et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui parlaient en ton nom, à nos rois, à nos princes et à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la confusion de face comme elle est aujourd'hui. Aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause de leur infidélité, par lesquelles ils ont été infidèles envers toi, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Mon Seigneur, notre Dieu, sont les compassions et les pardons, car nous nous sommes rebellés contre lui, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour marcher selon ses lois qu'il a mises devant nous, par ses serviteurs, les prophètes. Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versés sur nous l'exécration et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. Et il a accompli ses paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un mal si grand que rien ne s'est fait sous tous les cieux comme ce qui était fait à Jérusalem. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, et nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte, et qui t'es fait un nom, comme il paraît aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment, Seigneur, selon toute ta justice, que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications, et, pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute. Ouvre tes yeux et vois nos désolations, et la ville qui est appelée de ton nom. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom.
Une partie difficile de la prophétie. Le sujet de la fin du chapitre 8 a en effet des liaisons, des implications avec le prophète Ésaïe, comme nous l'avons vu, le prophète Ézéchiel, avec le Nouveau Testament, de sorte que il est pratiquement difficile en quelques mots d'en faire un résumé ou une synthèse. D'ailleurs, une réflexion d'un cher devancier nous vient à l'esprit. Nous ne pouvons pas traiter la parole de Dieu comme une science humaine, que l'on vulgarise, que l'on ramène à ses éléments essentiels, et dont on peut faire une suite rationnelle. Ce serait établir, ce serait admettre que notre esprit est supérieur à la parole de Dieu et qu'elle peut ainsi l'établir dans ses différents éléments constitutifs comme l'ont fait pour une science. Ce n'est pas vrai. Ceci dit, il est difficile, nous le comprenons bien, d'assimiler ces notions qui sont très compliquées. Alors peut-on demander à nos frères, c'est une initiative personnelle que je prends, on me la pardonnera, et elle s'adresse d'abord à celui qui parle, peut-on demander à nos frères d'être un peu plus brefs dans leurs exposés, parce qu'il est difficile, dans certains cas, de le suivre et de l'assimiler. Tandis que si on raccourcit un peu les parties de l'exposé, nous les saisirons, nous les retiendrons mieux. C'est un avis personnel que je me permets de présenter pour essayer de rendre la réunion aussi profitable que possible à chacun. Encore deux mots. Le dernier paragraphe du chapitre 8 nous a placés devant celui qui est appelé le roi du Nord, un royaume issu de l'empire d'Alexandre le Grand, qui a été partagé en quatre parties, comme on nous l'a bien expliqué hier, et deux parties de cet empire jouent un rôle sur la scène finale. Surtout deux, c'est-à-dire le roi du Nord et le roi du Midi. Les descendants de Séleucus, le général qui a hérité l'empire du Nord, s'appellent donc les Séleucides, et celui qui a gouverné l'Empire du Sud, c'est-à-dire l'Égypte et l'Arabie, c'était Ptolémée, d'où les Ptolémées. Et l'histoire est remplie de leurs débats, de leurs guerres, et au temps de la fin, on retrouve ces deux royaumes jouant un rôle prépondérant dans la crise finale. Nous avons vu que, dans le paragraphe précédent, l'Esprit de Dieu nous a donné l'histoire d'un homme qui fut roi de Syrie, le huitième, et qui s'appelle Antiochus Épiphane, ou l'illustre. Mais, comme on l'a dit, illustre par ses cruautés, par ses crimes, et dont la fin est une fin terrible. Il est donc le type, si vous voulez, le patron de celui qui sera sur la scène à la fin. Ce roi, dont l'histoire est si abominable, représente donc celui qui sera sur la scène à la fin. Et dont nous avons l'exposé dans le dernier paragraphe, c'est-à-dire qu'il sera là au jour de l'indignation de l'Éternel, c'est-à-dire des faits, des circonstances que Dieu permettra de la part des nations pour châtier son peuple. C'est cela l'indignation de l'Éternel. Ah, la Syrie, verge de ma colère, le bâton de mon indignation. Et nous avons vu comment Dieu va s'occuper de ce pays, ce roi du Nord, identifié avec Gog et Magog, notamment. Nous avons vu quelle sera la fin de ce roi du Nord, qui jouera un grand rôle, et qui sera à peu près le dernier ennemi qui sera abattu par le Seigneur dans la terre d'Israël. Sans doute après que le Seigneur aura réglé ses comptes d'abord avec l'Empire romain. Mais les nouvelles du Nord, nous n'allons pas entrer dans les détails parce que nous n'avons pas la capacité d'abord, et puis nous allons transgresser ce que nous venons de demander. Mais quoi qu'il en soit, le roi du Nord qui a déferlé dans la terre d'Israël entend des nouvelles qui l'effraient, c'est sans doute l'intervention de l'Empire romain en faveur de son allié, le roi, l'Antichrist. Ceci dit, Daniel est donc mis en présence d'une révélation extraordinaire. Il en est malade. Il en est accablé de stupeur et personne ne peut l'aider, personne ne peut comprendre avec lui ce qui a été placé devant lui. Et il lui a dit, Daniel, serre la vision. Elle est, quant à son accomplissement, pour beaucoup de jours. Et personne n'a compris cette vision. Sommes-nous sur le même terrain ? Eh bien, par la grâce de Dieu, ce qui était caché, ce qui était scellé pour eux dans ces jours-là, le Seigneur nous l'a maintenant révélé par son Esprit. Car l'Esprit de Dieu sonde toutes choses. Et le Seigneur, qui nous considère comme des confidents, nous a ouvert le champ de la prophétie, de sorte que ce que les amis de Daniel ne pouvaient pas saisir, nous pouvons le saisir aujourd'hui. Par l'Esprit de Dieu, qui est la lampe qui éclaire ce champ de la prophétie si difficile et si obscur pour l'esprit de l'homme. Il est d'ailleurs impénétrable à l'esprit de l'homme. Dernier mot, nous avons vu qu'aucune prophétie ne s'interprète particulièrement. C'est-à-dire, dans ce qui est dit dans l'Ancien Testament, à l'égard de certains personnages, eh bien, ils n'ont pas épuisé dans leur histoire personnelle tout ce que la prophétie contient et qui sera pleinement réalisé, pleinement déployé dans le cadre final. Nous avons cité cette verset de Pierre, aucune prophétie n'est d'une interprétation particulière. Cela veut dire que, voilà, par exemple, le roi du Nord, histoire terminée. Non, on la retrouve à la fin. Il en est ainsi pour beaucoup d'autres faits. Et nous avons ainsi abordé le chapitre 9. Daniel est stupéfié de la vision. Que va-t-il faire, certains? Nous avons vu que c'est un homme qui utilise deux ressources primordiales mises à la disposition du croyant. Va se tourner vers la parole de Dieu, source de consolation pour lui, source de lumière, et en même temps ému, étreint par ce qu'il a appris, par ce qui concerne le peuple de Dieu. Et comme on l'a dit hier, dans plusieurs conversations, comme ce chapitre nous convient bien, Daniel est un homme d'une qualité exceptionnelle. C'est un vieillard. Il a plus de 80 ans, 85 ans sans doute. Nous ne trouvons aucune réprimande à lui faire tout au cours de sa vie. Mais l'Esprit de Christ opérant en lui, il prend sur lui, chers amis, toute la misère du peuple de Dieu. Il va porter lui-même ce fardeau. C'est vraiment l'Esprit de Christ agissant en lui. Et combien agréable à Dieu. S'il n'en est pas ainsi, nous devenons insensibles. Nous disons, voilà, les choses sont telles, que pouvons-nous y changer? Nous devenons insensibles, indifférents, et nous sommes facilement poussés vers le mal. Au contraire, l'esprit de Daniel le pousse, l'esprit de supplication, l'esprit de prière le pousse à connaître, à s'approcher de Dieu, et à discerner dans le cœur de Dieu quelles sont ses pensées. Car si même Dieu doit se tourner contre son peuple en gouvernement, jamais pourtant le cœur de Dieu ne cesse de battre en faveur de ceux qu'il a choisis souverainement, ne revenant jamais sur ses promesses. Dieu peut être contre son peuple extérieurement, en gouvernement, mais toujours pour son peuple, dans son cœur. Et Daniel a compris cela. Et ce ne sont pas ceux qui sont dans le mal qu'il apprécie le mieux, mais ceux qui sont en dehors du mal, séparés pour Dieu, voient le mal comme Dieu le voit, dans toute sa gravité. Mal, hélas, dans lequel nous tombons si facilement, sous bien des formes. Et pourquoi rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément? Mais purifié de tout ce qui accable Israël dans ces jours-là, lui, le prophète, se tenant séparé pour Dieu, eh bien, il va nous montrer quels sont les sentiments produits dans son cœur par cet Esprit de Christ. Chose si opportune, si actuelle aujourd'hui, on l'a rappelé déjà hier, en présence de la ruine de l'Assemblée. Il y a beaucoup de choses à dire, chers amis. Quand nous pensons au début du témoignage que Dieu avait confié à des croyants fidèles, et ce qu'il en est aujourd'hui, s'il subsiste un petit témoignage, c'est bien en raison de la faveur de la grâce de Dieu. Car tout ce qui a été confié à l'homme, y compris l'Assemblée, y compris le témoignage, a été perdu. Et cela nous traverse l'esprit. Excusez-moi d'encore dire cela, et je l'ai déjà dit sans doute trop de fois, mais je l'ai déjà dit beaucoup de fois sans l'avoir dit trop de fois. En 1877, pour que nos amis français comprennent bien, je crois au mois de mars, une lettre a été écrite par ce cher devancier JND. Et les frères qui s'occupent de notre périodique ont fait reparaître cette lettre en 1977, Au mois de mars, si ma mémoire est fidèle, donc exactement un siècle après qu'elle avait été écrite. Vous voyez, écrite en 1877, publiée en 1977. Et ce cher frère B, après un voyage aux États-Unis, je suis amené à réaliser que tout ce que le Seigneur a confié à l'homme, y compris les trésors qu'il a placés entre nos mains, tout sera perdu. Et je demande au Seigneur qu'il hâte sa venue avant la ruine complète du témoignage, car il en sera du témoignage comme il en a été d'Israël. Un voyage récent en Amérique ne lui avait laissé aucun doute quant à cet affaiblissement, quant à cet effondrement, en le comparant avec ce qu'il avait vu précédemment. S'il revenait en Belgique, cher ami, que dirait-il?
Pour quelle raison Daniel s'humilie, fait sa confession au moment même où il a découvert dans la parole de Jérémie que le temps de l'épreuve pour Israël durerait 70 années et que au moment où Daniel découvre cela, les 70 années sont pratiquement révolues. Il me semble trouver une raison dans le premier verset que nous avons lu ce matin. Je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui garde tes commandements. Daniel, à ce moment, réalise d'une façon particulière deux choses. Dieu se révèle et Dieu agit en fonction de ses révélations. Et deuxième chose, il rend responsables ceux qui sont dépositaires de ses révélations. Ils sont responsables de garder ses commandements. Et c'est en quoi ce Dieu est grand et terrible, mais aussi grand en bonté, parce que les exigences sont à la mesure de sa sainteté et que la responsabilité de l'homme est en fonction de sa sainteté, mais aussi que l'homme, dans sa petitesse, est soutenu par la bonté de Dieu. Et ainsi, Daniel ressent dans son cœur d'une façon particulière que si Dieu a permis cette épreuve, il l'a permis avec justice parce que son peuple a fauté, mais que, et c'est la deuxième chose qu'il ressent, que si le peuple et lui-même s'humilient, il y a des trésors d'amour et de bonté dans le cœur de Dieu. Et cela donne toute la force à cette admirable prière de confession, comparable à celle que nous trouvons dans le livre d'Esdras au chapitre 9e et à la confession de Néhémie au chapitre 9e de son livre. Trois prières admirables de serviteurs engagés pour Dieu, qui comprennent quelles sont les pensées de Dieu et qui prennent la seule position qui est agréable à Dieu, celle de l'humiliation. Mais l'humiliation comprend une chose essentielle, c'est la confession. Il est facile de dire « je m'humilie », il est facile de dire « je ne suis rien ». Mais combien il est plus difficile de dire à Dieu « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fauté » et combien peut-être est-il encore plus difficile de le dire à son frère « j'ai fait ceci ou j'ai fait cela ». Mais c'est à quoi nous amène une véritable et une vraie humiliation. Encore un mot dans ce chapitre de Daniel, il y a deux grandes parties. Une partie jusqu'au verset 14e. Et nous voyons que dans cette partie, il est surtout question de nous, de je. C'est la confession. Et dans la deuxième partie, depuis le verset 15e, il est surtout question de toi, de tu. C'est Daniel qui fait appel aux promesses de Dieu et qui fait appel à sa bonté et à sa miséricorde. Et qui rappelle que finalement, Daniel, qui s'unit à tout le peuple d'Israël dans la faute, est un peuple qui porte le nom de l'Éternel, et que c'est le témoignage de Dieu lui-même qui est en question quand l'épreuve se manifeste sur ce peuple. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas faire, fidèle à lui-même, ne peut pas faire durer cette épreuve toujours. Il se doit de manifester aussi sa gloire et de rappeler que ce peuple porte le nom de l'Éternel et que la sainteté même de l'Éternel est engagée dans la manifestation de Dieu par ce peuple lui-même qui porte son nom.
Confondu de voir l'attitude que prend Daniel au moment où il semblerait qu'il doit se réjouir. La lecture de la parole de Dieu, donc des écritures qu'il avait entre les mains, lui font comprendre que la réponse de Dieu à une attente aussi longue est imminente. Lorsque l'on n'y voit pas clair dans les voies de Dieu, les fidèles d'autrefois, et nous le voyons à travers des psaumes, se sont adressés au Dieu de grâce, au Dieu de miséricorde, en lui disant « Jusque à quand ?» Nous le trouvons d'une manière particulière chez Asaph, et je citerai quatre expressions de psaume d'Asaph, qui est là dans un tourment profond, ne voyant pas quel est le chemin de Dieu, et qui répète dans plusieurs de ses psaumes cette expression à Dieu « Jusque à quand ?» Au psaume 74, tout d'abord, et c'est au verset 10. « Jusque à quand, ô Dieu, l'adversaire dira-t-il des outrages ? L'ennemi méprisera-t-il ton nom à jamais ?» Le voilà donc entouré d'adversaires, entouré d'ennemis, la situation dure, il ne voit pas d'issue, son seul recours c'est Dieu. Et il s'en remet à Dieu et à la sagesse divine, jusque à quand? Et puis, quelques psaumes plus loin, le même Asaph, au psaume 79, dit au verset 5, « Jusque à quand, ô Éternel, seras-tu en colère à toujours? Ta jalousie brûlera-t-elle? Et quelle est la situation là? » Verset 4, « Nous avons été en opprobre à nos voisins, en risée et en raillerie auprès de nos alentours. » Le voilà donc au milieu des ennemis, en opprobre, en risée, objet de moquerie. On se moque des fidèles. Ils sont la risée des ennemis. Seigneur, jusque à quand? Seigneur, jusque à quand? Et au psaume de nouveau 80, au verset 4, la même expression surgit. Verset 4, « Éternel Dieu des armées, jusque à quand ta colère fumera-t-elle contre la prière de ton peuple? Tu leur as fait manger un pain de larmes, tu les as abreuvés de larmes, à pleine mesure, le pain de larmes. » Au milieu donc des ennemis, on pleure, on prie, on ne voit pas d'issue, et alors le seul cri du cœur s'élevant jusqu'à Dieu, jusque à quand? Jusque à quand? Et une dernière expression au psaume 82, le verset 2, jusque à quand jugerez-vous injustement et ferez-vous acception de la personne des méchants? Faites droit aux misérables, à l'orphelin, faites justice à l'affligé et au nécessiteux. Dieu vient faire justice à ceux qui sont ainsi soumis à l'injustice de leurs ennemis, faussement soumis à cette injustice. Voilà des cris qui, dans des situations diverses, dans une douleur toujours plus ressentie profondément, n'y voyant pas clair, n'ont que cette expression dans le cœur, « Dieu, jusque à quand ?» Ils font appel aux compassions de Dieu. Ici, la situation de Daniel est différente. Il vient d'avoir la réponse. 70 années vont être accomplies et elles s'achèvent, et Israël pourra retourner dans sa terre. Alors il semblerait qu'il devrait y avoir un cri de joie dans ce cœur. Et au contraire, c'est la confusion de face. Et c'est un prophète, c'est un homme de Dieu qui va confesser le péché du peuple. Pourquoi ? Nous l'avions dit et nous venons de donner une réponse à cela. Daniel prend à ce moment-là conscience que le peuple ne pourra bénéficier de cette merveilleuse réponse de Dieu que si son cœur est profondément humilié et qu'il prenne conscience de son péché. Le peuple ne peut pas retourner en Israël de façon insouciante et passant légèrement sur son péché. Et l'attitude de ce vrai serviteur est maintenant de prendre le péché du peuple sur lui-même et de le confesser comme étant sien. Et la vraie attitude d'un homme de Dieu, c'est celle-là. Job, déjà dans les temps anciens, savait que ses enfants se réunissaient et qu'ils avaient une petite fête entre eux. Et Job se disait, et ceci est très remarquable, Job envoyait vers eux, il les sanctifiait, il se levait de bonne heure le matin et offrait des holocaustes selon leur nombre à tous, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Job faisait toujours ainsi. L'attitude d'un Daniel doit être l'attitude de tout chef de famille, doit être l'attitude de tout parent. Le péché d'autrui ne regarde pas autrui seulement. Les incartades, ce qui pourrait arriver à mes enfants me concerne moi aussi. Job, en raison de ce que ses enfants auraient pu faire, auraient pu dire, prenait cette attitude devant Dieu. Il se plaçait devant Dieu. C'est ce qu'ici Daniel va faire. Moïse aussi, élevé au fait de la gloire, va avoir un moment de conscience où il va choisir, être, nous est-il dit, et c'est Hébreux 11, ce verset que nous connaissons bien, il est donc au fait de la gloire, étant devenu grand, il refuse d'être fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu. Il y a un moment où, quittant la gloire, il choisit l'affliction. Pourquoi ? Parce qu'être dans l'affliction, c'est la partager avec celui qui, quel que soit son état, demeure le peuple de Dieu. Et cela le conduira à aller beaucoup plus loin quand, après le veau d'or, il se présentera à Dieu, au moment du péché du peuple, comme une propitiation pour ce peuple. Voilà l'attitude des hommes fidèles. Prendre sur soi le péché d'autrui et le confesser comme étant son propre péché.
Serviteur de Dieu, dont la parole ne mentionne absolument aucune défaillance. Nous avons des traits remarquables dans d'autres serviteurs, David en particulier, qui porte nos regards vers Christ. Mais la parole ne nous a pas caché les fautes, même très graves, accomplies par les serviteurs de Dieu au cours de leur vie, comme personne responsable. Quant à Daniel, aucune défaillance n'est mentionnée dans sa vie, soit dans son livre, soit dans le restant de la parole. Au contraire, Daniel est mentionné en Ézéchiel 15, dans un passage que nous connaissons bien, en même temps que Noé et Job, comme ayant une conduite telle que Dieu aurait délivré son âme par la propre justice. Non pas que Daniel ait été juste en lui-même, mais ses voies étaient justes, agréables devant Dieu. Noé, Daniel et Job fussent au milieu de toi, au milieu de lui, ceux-ci délivreraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Bien cela n'a pas empêché Daniel de s'identifier, comme nous le voyons dans ce passage précieux, avec la faute du peuple. Non seulement la faute de Judas et de Benjamin, de Judas et de Jérusalem, verset 7, les hommes de Judas et les habitants de Jérusalem, mais aussi s'identifie au-delà de ce qu'était l'état présent du résidu qui avait été transporté à Babylone. Il y inclut Israël. Et cela est bien important pour nous en rapport avec ce que doit être l'état de nos âmes. Alors qu'extérieurement, la délivrance de ce résidu transporté à Babylone avait sonné dans les voies de Dieu, et qu'il y aurait eu extérieurement de quoi se réjouir, mon frère vient de rappeler que, au contraire, Daniel s'humilie. Daniel applique son cœur à comprendre, à s'humilier et à comprendre ce que sont les pensées de Dieu à l'égard du peuple. Il ne s'arrête pas à ces 50 000 personnes qui remonteraient de la transportation pour constituer ce faible résidu au milieu duquel le Messie, donc 70 semaines d'années plus tard, viendrait se manifester comme grâce de Dieu envers son peuple. Mais Daniel, quant à lui-même, nous l'avons rappelé hier, est probablement resté à Babylone jusqu'à la fin de sa vie. Il y avait aussi les 10 autres tribus, ces 10 tribus qui auparavant avaient été transportées du temps de Shalmaneser en Assyrie et qui y étaient jusqu'à ce jour. Mais Daniel inclut le peuple dans son ensemble et porte devant Dieu la peine du péché de tout le peuple. Les habitants de Juda et de Jérusalem, Juda et Benjamin, les 10 tribus, ceux qui remonteraient, ceux qui resteraient. Dans la pensée de Dieu, ce peuple était un. Et le centre du peuple, c'était Jérusalem. Le temple était le lieu où Dieu avait dit qu'il y ferait habiter son nom. De sorte que toutes ses pensées sont dans le cœur de Daniel. Il répond en fait à la prière que Salomon, à la dédicace du temple, avait adressée à Dieu. Et cette prière, Dieu l'avait écoutée. Il avait promis d'y répondre. Nous savons que dans les 2 livres des Rois et des Chroniques, la prière est donnée en détail. Et ce qui concerne justement cette restauration du peuple au moment où nous sommes arrivés dans l'histoire d'Israël est donné 2 fois dans le livre des Chroniques et dans le livre des Rois. 1 Roi 8, 2 Chroniques 6. 2 Chroniques 6, verset 36. S'ils ont péché contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et que tu te sois irrité contre eux, et que tu les aies livrés à l'ennemi, et qu'ils aient été emmenés captifs en un pays éloigné ou rapproché, et que dans le pays où ils auront été emmenés captifs, ils rentrent en eux-mêmes, et reviennent à toi et te supplient dans le pays de leur captivité, disant, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, et nous avons agi méchamment. Et s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité. Alors verset 39, « Alors écoute des cieux du lieu de ton habitation, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit et pardonne à ton peuple ce en quoi ils ont péché contre toi. » La parole ne nous montre aucune trace de ce travail de cœur et de conscience dans l'humiliation, dans qui que ce soit d'autre, sauf en Daniel. De sorte que pour Dieu, Daniel, pour ainsi dire, personnifiait, concentrait en lui-même, en la personne de ce serviteur aimé, cet homme bien-aimé, comme la parole nous l'écrit, au fond tout le travail de cœur que la grâce de Dieu produisait dans l'ensemble du peuple. Voilà au fond le seul état qui plaît à Dieu. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment. Maintenant, Éternel, pardonne. Salomon avait présenté cette prière et Dieu lui a répondu. Vienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai. Verset 15, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ce lieu, car maintenant j'ai choisi et sanctifié cette maison afin que mon nom y soit à jamais. Et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Alors nous avons à bien distinguer ici entre ce qu'étaient les pensées de Dieu, ses pensées éternelles à l'égard de son peuple, ses conseils on peut le dire, et ses voies et ses voies étant adaptées en gouvernement à l'état momentané du peuple. Jérusalem avait été démolie, nous l'avons rappelé hier, il ne restait plus rien qu'un monceau de ruines. Le temple était abandonné, la nuée était partie, était montée dans le ciel. Du reste, cette nuée ne sera pas redescendue sur les autres temples, sauf sur le dernier temple d'Ézéchiel, dans un temps qui est encore à venir. Et pourtant, Jérusalem était le centre de la pensée du Dieu à l'égard de son peuple terrestre, et le lieu où il avait dit « Mes yeux et mon cœur seront toujours là ». La pensée de Daniel ne pouvait pas s'arrêter avant. Il fallait l'humiliation pour que, selon la pensée de Dieu, le peuple remonte de la transportation. Quant à Daniel, il restait peut-être à Babylone. Quant aux 2 tribus, elles étaient elles-mêmes aussi dispersées tout autour, en Assyrie, et on en a perdu la trace. Eh bien, ce qui soutenait la foi et le cœur de Daniel, c'est ce que nous trouvons en Zacharie 6, où nous avons la véritable restauration complète et entière du peuple, qui est reportée à un temps à venir. En Zacharie 6, le dernier paragraphe, le verset 9, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Prends de la part de ceux de la transportation, verset 10 à la fin, « Va où ils sont venus de Babylone. Tu prendras, dis-je, de l'argent, de l'or, tu prendras des couronnes. » Verset 12, « Un homme dont le nom est Germe, il germera de son propre lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Lui bâtira le temple de l'Éternel et il portera la gloire. Et il s'assiera et dominera sur son trône et sera sacrificateur sur son trône et le conseil de paix sera entre eux deux. » Voilà le terme de la restauration. Christ un jour rebâtira son temple et il habitera au milieu de son peuple tout entier. Non pas 2 tribus, non pas 10 tribus, mais les 12. Non pas quelques heures remontées de la transportation seulement, et quelques fidèles gardés comme témoignage de la justice et la gloire de Dieu au milieu de Babylone, là où le peuple avait été transporté, mais l'ensemble de ce peuple, uni comme unité dans la pensée de Dieu, la pensée éternelle de Dieu. Les choses sont extrêmement faciles si notre cœur est préparé pour qu'elles soient transposées à l'histoire de l'Église. Il est totalement exclu de penser que l'Église peut retrouver son unité du début. Il n'a pas été dans la pensée de Dieu de restaurer ce que notre folie avait perdu, ce que nous n'avions pas su garder. Dieu crée autre chose. Mais dans la pensée de Dieu, l'Église, évidemment, est une. Puisque l'unité du corps de Christ est scellée par son œuvre, elle ne peut pas être changée. Rien d'autre ne peut intervenir. Nous ne pouvons pas restaurer ce qui a été perdu. L'Église est maintenant complètement, non seulement en ruine, elle est complètement dispersée. Ce qui subsiste et ce qui correspondrait à ces quelques fidèles de Babylone, à ces quelques-uns remontés de la transportation, c'est ce que le témoignage que le Seigneur s'est suscité il y a 150 ans, ce qui en subsiste de ce faible témoignage. On pourrait se demander si finalement tout ne va pas complètement disparaître. Bien, l'Écriture nous dit que non. Et il y a eu des Daniel à l'époque. Voilà à l'intelligence de la position du peuple.
Nous ont laissé, dont Dieu nous a laissé l'histoire, nous montre bien que pour eux, le peuple était un, dans son unité initiale, comme il y avait 12 pains sur la table, les pains de proposition présentés chaque sabbat à l'Éternel. Pour eux, quel que soit l'état, quelle que soit la ruine, quelle que soit la dislocation, il y avait un seul peuple, composé de 12 tribus, d'où l'autel de 12 pierres au jour d'Élie, l'autel rétabli sur son emplacement au jour d'Esdras, d'où cette expression si remarquable de l'apôtre quand il dira devant les notables devant lesquels il doit comparaître, à laquelle, dit-il, en parlant de l'espérance d'Israël, nos 12 tribus, où sont les 12 tribus? Il y a un petit reste de la tribu de Juda et de Benjamin qui est remonté de la captivité en 536 au premier temps du règne de Cyrus. Mais les 10 tribus, où sont-elles? Mais la foi sait bien que Dieu retrouvera ces 12 tribus. Qui pourrait les trouver aujourd'hui? Eh bien, le prophète Ézéchiel nous dit, il ne faut pas chercher, mais Dieu les connaît. Et nous avons le dernier verset d'Ézéchiel 39 qui dit, en parlant des 10 tribus, qu'il les rassemblera dans leur terre, et je n'en laisserai, je n'en aurai. L'Éternel parle au futur, la chose étant déjà accomplie pour lui, je n'en aurai laissé là aucun de reste. Dans les vastes contrées, ils ont été dispersés au nord-est, en Assyrie et dans tous ces pays, dont nous ne connaissons pas exactement la situation aujourd'hui, on ne peut plus identifier ces 10 tribus, mais Dieu nous dit, je n'en laisserai pas un seul de reste parmi les nations où je les aurai chassés. N'est-ce pas une chose merveilleuse, cher ami? Peut-il y avoir un miracle plus extraordinaire que celui-là, qu'après 27 siècles, Dieu va retrouver les 10 tribus et les faire rentrer dans sa terre, de telle manière que, survenant après la gloire, le peuple de Juda qui est déjà là dira, mais d'où me viennent ceux-ci? Ce sera l'accomplissement d'une promesse extraordinaire. Mais pour le fidèle, cette promesse de l'accomplissement du propos de Dieu l'a toujours soutenu. Sans doute, versant des larmes en raison de l'état du peuple. Mais le voyant aussi à travers les promesses que Dieu a faites, et dont l'accomplissement ne repose pas sur la fidélité de qui que ce soit, mais sur la valeur impérissable de l'œuvre de Christ. C'est sur ce fondement que Dieu accomplira les desseins qu'il a formés, et en vertu de cette œuvre, Dieu est un seul, dit l'apôtre dans l'épître aux Galates. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Dieu trouve en lui-même, en lui seul, non plus dans un contrat bilatéral comme autrefois, mais la nouvelle alliance repose en faveur d'Israël sur l'œuvre de Christ, et plus rien n'est demandé au peuple. Et le fidèle voit comment Dieu accomplira ses promesses, de sorte qu'il est soutenu dans sa foi et encouragé malgré l'état misérable de ce pauvre peuple. Et ce que notre frère vient de dire, notre M. Janin, est de toute importance. Jamais la foi ne porte quelqu'un à se séparer du peuple de Dieu. Jamais l'intelligence des pensées de Dieu ne porte quelqu'un à se séparer du peuple de Dieu comme s'il était plus saint que lui. La conduite d'un croyant qui a saisi la pensée de Dieu, la voici. C'est celle de Daniel, c'est celle d'Esdras, c'est celle de Néhémie. Et cet exemple, chers amis, peut être communicatif et apporter beaucoup de profit. Si nous nous laissons aller au découragement, il est bien clair que nous serons sans force. Mais lisons dans le livre d'Esdras, nous allons lire deux versets qui ne manquent pas de ce lit avec notre sujet, qui sont pleins d'encouragement. Ezra vient d'arriver, lui, 55 ans à peu près, après, à la suite du premier contingent remonté de la captivité. Et il se trouve devant un état de choses si misérable. Petite parenthèse. Il est bien vrai que le principe de l'unité du peuple de Dieu commence par la séparation d'avec le mal. Ça, c'est un principe souverain. Cette petite parenthèse, nous allons la fermer, mais nous y ajoutons, nous y incorporons ce que les récits si saisissants de nos frères permettent de discerner. Lorsque Dieu a réveillé les saints au siècle dernier, ils se sont réunis, se sont retrouvés pour lire la parole et pour découvrir, comme tout à nouveau, des vérités qui étaient perdues depuis longtemps. Mais quelle a été leur réaction? Revenons à l'expression de notre frère. Était-ce tout à coup une joie débordante? Mais le Seigneur revient. Mais nous pouvons nous réunir comme au commencement sur le terrain d'unité du corps de Christ. Mais quel bonheur, quelle joie, l'ange. Eh bien, en présence de ce que Dieu leur montrait relativement à l'état de l'Église, selon son cœur, ce que l'Église était pour lui, et ce qu'elle était devenue entre les mains des hommes, qu'ont-ils fait? Pas la découverte, pas la joie relative à la découverte des vérités que l'Esprit de Dieu mettait en lumière dans ces jours-là. Mais quelqu'un a écrit, dans une réunion, on ne pouvait plus dire un seul mot. L'émotion était telle, elle étreignait tellement les cœurs que plus personne ne pouvait ouvrir la bouche. Mais, ajoute cet historien, le pavement, vous voyez ce que je veux dire, était mouillé de larmes. S'identifiant avec cette ruine de l'Église, alors qu'eux-mêmes étaient des fidèles, des croyants séparés pour eux-mêmes, pieux, mais réalisant l'état de l'Église à laquelle ils appartenaient, voilà leur réaction. Et s'il en est ainsi, Dieu peut produire du bien à partir de quelques-uns qui réalisent cela. Témoin Esdras, nous fermons la parenthèse, nous venons à Esdras 9. Et quand j'entendis cela, verset 3, quand j'entendis cela, qu'est-ce que nous pouvons entendre aujourd'hui? De tous les côtés, quand j'entendis cela, ici une autre chose, quand j'entendis cela, que de choses nous pouvons entendre et qui sont propres à nous faire tomber les bras, nous dire, mais quel état de ruine. Quand j'entendis cela, nous pouvons remplacer le cela par les circonstances locales de chacune des assemblées auxquelles nous appartenons. Qui pourrait, chers amis, lever la tête à l'égard de ces considérations? Quand j'entendis cela, qu'allons-nous faire? Eh bien voilà l'attitude d'Esdras. Je déchirai mon manteau et ma robe, et j'arrachai les cheveux de ma tête. Nous n'avons pas encore vu cela, chers amis, dans les assemblées. Sans doute, c'est une manifestation extérieure ici, propre au terrain de la loi. Mais dans le cœur, voilà, déchirer son manteau, déchirer sa robe, s'arracher les cheveux et sa barbe, et je m'assis désolé. Je m'assis désolé, me rendant compte de cet amas de décombres, de cet état de choses, quand j'entendis cela, choses qui apparemment sont sans remède. Et que lisons-nous par la suite? Verset 4. Et vers moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient aux paroles de Dieu. Et Esdras n'est pas resté seul. Vers lui se sont assemblés tous ceux qui leur a dit qu'Esdras, que c'est vers Esdras qu'il fallait aller. Mais le sentiment, le sens spirituel les a conduits vers cet homme de Dieu, sentant bien qu'il revêtait l'attitude qui convenait à Dieu pour ce jour-là. Encore, puisque nous avons ouvert la page au chapitre 9 d'Esdras, nous avons au verset 10, et comme Esdras, ce n'est pas un homme qui s'est humilié un jour et puis qui s'en est allé un peu insouciant. Non, verset 1er du chapitre 10, et comme Esdras priait et faisait sa confession, pleurant et se prosternant devant la maison de Dieu. Devant la maison de Dieu, qui était bien loin d'être ce qu'elle avait été au jour de Salomon. Où est sa grandeur? Où est sa gloire? Où est son rayonnement? Où est son éclat? Tout est perdu. C'est devant cette maison, mais Dieu a dit, le fait vient de le rappeler, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Même si elle est entièrement démolie, pour Daniel, il ne restait plus que quelques pans de murs calcinés. Mais c'est vers Jérusalem qu'il se tournait, vers le temple, comme au plus beau jour de son existence. Mes yeux, mon cœur seront toujours là. Et Esdras prie, faisant sa confession, pleure devant la maison de Dieu. Nous avons le même phénomène. Il se rassembla vers lui d'Israël une très grande congrégation d'hommes et de femmes et d'enfants, car le peuple pleurait beaucoup. L'Esprit de Dieu opère, cela a eu lieu au commencement, cela peut encore avoir lieu aujourd'hui, malgré le découragement qui peut s'emparer de nous, si quelques âmes, si quelques frères éprouver ce sentiment de Esdras, est impossible que Dieu ne réponde pas à la foi de quelques-uns qui sentiraient réellement à la fois l'état du peuple de Dieu, mais en même temps que le Seigneur est fidèle, qu'il aime son assemblée, qu'il la nourrit, qu'il la chérit et qu'il ne l'abandonnera jamais. Dernier mot que nous disons à l'égard de jusques à quand. C'est intéressant les jusques à quand qui nous ont été présentés. Il y a un homme de Dieu qui en présente un aussi très remarquable. C'est dans le chapitre 6 du prophète Ésaïe. Il a prononcé 7 malheurs. Et il n'oublie pas que le malheur, le dernier, c'est contre lui, qu'il convient de le prononcer. Pas seulement contre les autres. Il y a eu un feuillet de calendrier assez intéressant, ce sujet-là, cet an dernier, où les fautes d'autrui nous apparaissent comme les phares d'une auto. Ça nous aveugle, ça nous éblouit. Mais nous ne voyons pas les nôtres. Nous voyons ceux de nos frères comme des phares d'automobile. Alors, Esaïe n'oublie pas de prononcer malheur à moi, dit-il. Il a dû prononcer malheur sur toutes les catégories du peuple, mais il n'oublie pas qu'il fait partie de ce peuple. Et il s'écrit en présence de la sainteté de Dieu, malheur à moi. Et puis Dieu va l'envoyer, il va lui dire, eh bien, maintenant je vais t'envoyer, tu diras ceci, tu diras cela. Des choses terribles, des choses qui blessent au fond de son cœur, Esaïe, de devoir aller dire au peuple, eh bien Dieu va endurcir votre cœur, et ce sera un jugement terrible qui va tomber sur vous. Sera de nouveau menacé par le Seigneur. Le Seigneur va de nouveau en menacer son peuple et il ne sera accompli que par l'apôtre 40 ans plus tard. Maintenant, c'est le dernier mot, dira-t-il. Voilà la prophétie d'Esaïe qui se réalise. Votre cœur est endurci, vous ne pouvez plus croire. Mais que va répondre Esaïe en présence d'une accusation, en présence d'une déclaration de jugement aussi solennelle que cela? Seigneur, que va-t-il dire? Tu as bien raison, Seigneur. Étant donné l'état de ce peuple, va-t-il parler comme Élie? Moi, je suis resté moi seul, fidèle, tout ce peuple est plongé dans le péché. Non, ce n'est pas cela que Esaïe va dire. Seigneur, dit-il, jusque à quand? Jusque à quand seras-tu indigné contre ton peuple? Et Dieu ne peut pas s'empêcher de lui dire, eh bien, écoute, Esaïe, pour ta consolation, il y aura un dixième qui sera maintenu. Et enfin, c'est le Seigneur qui répond au jusque à quand de l'Ancien Testament, au jusque à quand de la foi, parce qu'il est là maintenant pour établir la base sur laquelle Dieu peut révéler toute la grâce de son cœur. Dieu de pardon, si nous confessons, si nous nous humilions réellement des fautes commises, comment le Seigneur parle-t-il? Jusque à quand, Seigneur? Bien le Seigneur répond, jusqu'à ce que. Jusque à quand, Seigneur? Jusqu'à ce que vous disiez, ce sera alors l'heure de l'Esprit de Dieu opérer en eux pour les amener à porter des fruits qu'ils n'ont jamais pu porter jusque-là. Mais la vie sera en eux, ils croiront au Seigneur, se tourneront vers lui. Alors le Seigneur dit, eh bien, tout c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à ce que vous disiez, enfin, pour votre joie et pour la joie du cœur de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Noé, Daniel et Job, dans un temps de ruine où il n'y avait plus de ressources, seulement par leur justice, auraient pu délivrer leur âme. Noé, par la crainte de Dieu, qui lui fit préserver sa maison. Job, par sa patience, dans l'épreuve, qui lui fit alors avoir l'attitude qui convient devant Dieu. C'est ce que Dieu dira à ses amis. Daniel, essentiellement par sa fidélité. Au début, fidélité vis-à-vis de la souillure. Dans les chapitres qui suivent, fidélité dans la présentation de la parole de Dieu devant le roi. Ensuite, fidélité dans son administration, chapitre 6, nous l'avons vu. Ici et dans d'autres chapitres, fidélité dans la prière. C'est une des caractéristiques de la vie de Daniel que celui-ci, la fidélité. Comment prie-t-il? Le début de cette prière, alors verset 5, verset 4, « Je priais Dieu, je fis ma confession ». Je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment, qui garde tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous nous sommes rebellés, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances, nous ne t'avons pas écouté. Nous. Il s'identifie au peuple, nous l'avons dit. Il s'identifie au peuple. Le souverain sacrificateur aussi, dans le grand jour des propitiations, s'identifiait. Le taureau était offert, son sang était versé, il allait être porté jusque dans le sanctuaire. Et puis, sur le bouc qui restait là, vivant, on versait donc le sang du taureau qui avait été égorgé, et l'on confessait tous les péchés d'Israël sur la tête du bouc Azazel. Mais on avait dans ce moment-là cette impression quand même que ces péchés confessés sur la tête du bouc Azazel allaient partir dans un désert, partir à tout jamais. Nous voyons là une partie de l'œuvre de Christ, nous le savons, mais on avait l'impression que ces péchés d'une année accumulés, enfin, on en était libéré d'un tel poids, il partait. Et ce péché était confessé sur le bouc Azazel. Ici, Daniel le prend sur lui. Et la façon dont il le fait est très remarquable. On a rappelé qu'il fait cette prière en vertu de la promesse qui avait été faite en réponse à la prière de Salomon, nous l'avons vu dans le livre des Rois. Mais nous pouvons aller plus loin. Et c'est cette expression qui m'y conduit. Nous n'avons pas écouté. C'est une expression qui va revenir à 4 reprises dans ce chapitre. Nous n'avons pas écouté. C'est le verset 5. C'est le verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Au verset 9. Ô Dieu, notre Dieu, sont les compagnons, sont les pardons, car nous nous sommes rebellés contre lui et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Après, verset 11, et tout Israël, nous revenons là, tout Israël, l'unité d'Israël, tout Israël, il pense même aux dispersés d'Israël, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Et au verset 14, tu es un Dieu juste, juste dans toutes tes œuvres, les œuvres qu'il a faites, et nous n'avons pas écouté sa voix. En quelque sorte, il y a un mot, une expression qui revient, nous n'avons pas écouté, et c'est là que nous sommes allés de transgression en transgression jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous retournons à Lévitique 26. Et à la règle que Dieu avait donnée au peuple autrefois. Et cela nous conduit bien au-delà des jours de Salomon. C'est le peuple dans le désert. Un peuple appelé à obéir à une loi. Un peuple à qui des promesses sont faites. Un peuple que Dieu ne veut que bénir. Et nous avons alors au verset 14. Mais si vous n'écoutez pas ma voix. Et voilà un premier châtiment. Et si le mal grandit, verset 18, « Et si après cela encore, vous n'écoutez pas, et voilà d'autres châtiments qui sont annoncés. » Au verset 21, « Et si vous marchez en opposition avec moi, et que vous ne vouliez pas m'écouter, pour la troisième fois, Dieu revient. » Le mal va toujours, tout va de mal en pis. Pour la troisième fois, et si vous ne m'écoutez pas, et verset 27, et si avec cela vous ne m'écoutez pas et que vous marchiez en opposition, et voilà la situation. Un petit degré, on n'écoute pas un détail, ceci, cela. Oh, mais ce qui concerne les enseignements de Paul, c'est un peu difficile. Pour le jour d'aujourd'hui, contentons-nous de la présentation de l'Évangile dans sa simplicité. Oh, cette marche dans la séparation. Oui, bien sûr, il fut un temps où il était nécessaire de bien la marquer, mais quoi qu'il en soit, soyons plus tolérants. Si vous n'écoutez pas, et le chemin s'éloigne, et pour Israël, voilà où il l'a conduit. Alors, verset 33, après ce quatrième, si vous n'écoutez pas, vous serez dispersés parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Alors le pays jouira de ses sabbats. Nous en sommes arrivés là. Il n'a pas écouté, avertissement après avertissement, il s'est éloigné, égaré. Et le jugement de Dieu est tombé sur lui. Mais alors le Dieu des compassions, et je passe tout le paragraphe que nous pourrons lire chacun pour nous, pour arriver au verset 45, s'il y a alors une vraie humiliation dont il est question là, et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec leurs ancêtres, lesquels j'ai fait sortir du pays d'Égypte sous les yeux des nations pour être leur Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Moi, je suis l'Éternel. Pas écouter, pas écouter, pas écouter. Prenons garde à ce qu'entendent nos oreilles et à la façon dont nous obéissons. Un détail, quelquefois, peut suffire pour conduire jusqu'à une chute irrémédiable.
On notera que Dieu communiquait sa pensée, sa voix à son peuple, et le peuple aurait dû écouter, par le canal ses serviteurs les prophètes. Expression remarquable à la suite de ce que notre frère dit au verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes. Et c'est exactement la description qui nous était donnée de l'histoire du peuple avant la transportation dans le dernier chapitre du second livre des Chroniques. Dans le second livre des Chroniques, nous retrouvons, pour ainsi dire, ce qui explique l'état du peuple et la manière dont Daniel est revenu dans une confession précise à reprendre moralement tous les points qui expliquaient la chute, l'infidélité du peuple. Au verset, nous savons qu'à ce moment de la monarchie parmi le peuple d'Israël, c'est le roi dans sa conduite qui déterminait l'état du peuple. Si le roi était fidèle, le peuple était béni. Si le roi était infidèle, le peuple était châtié. Alors Sédécias a eu cette terrible responsabilité, en fait, d'être le dernier roi de Juda au moment de la transportation. Il n'a pas voulu s'humilier, verset 12 de 2 Chroniques 36. Il a fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel, il ne s'humilia pas devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Le roi, donc, a refusé d'écouter. Il n'était pas le seul. Verset 14, « Tous les chefs des sacrificateurs aussi et le peuple multiplièrent leurs péchés. » Daniel revient exactement à cela. Il est question au verset 6, « Les rois, les princes, les pères, tout le peuple du pays. » En 2 Chroniques 36, c'est le roi, les chefs des sacrificateurs et le peuple. Donc parmi les chefs, il y avait les chefs religieux, et les chefs qui administraient le peuple. Ni les uns ni les autres n'avaient d'écouter. Mais le peuple aussi, qui était responsable d'écouter, n'avait pas voulu écouter non plus. Alors Dieu avait envoyé ses serviteurs, les prophètes. De Chroniques 36, 15, il envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et les envoyant, car il avait compassion de son peuple et sa demeure. Il se moquait des messagers de Dieu et méprisait ses paroles et se raillait de ses prophètes. Jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel monta contre son peuple et qu'il n'y eut plus de remède. Voilà pourquoi le peuple a été transporté. Il faut, pour que la confession soit complète, que Daniel revienne à la source même de ce qui avait causé la perte du peuple. Il faut que nous revenions dans une confession de ce qui nous concerne aux racines, comme disait mon beau-père, les plus lointaines et les plus profondes qui ont marqué ce moment où nos âmes se sont séparées de Christ. Nous avons perdu la précieuse communion avec lui. Et c'est là la source des défaillances dans nos vies et dans la vie des assemblées. Le serviteur, le prophète, était celui qui, de la part de Dieu, parlait les paroles de son cœur, les paroles de sa part, pour les donner au peuple. Un passage que notre frère, M. Pierre Rossel, bien-aimé frère de notre frère présent ici, présente souvent, c'est dans le prophète Amos. Il nous a dit que, chapitre 633, Amos 3, le verset 7, « Le Seigneur l'Éternel ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. » Expression remarquable de Daniel 9, le verset 6, « Les serviteurs de l'Éternel, ce sont les prophètes, sont ceux qui sont le plus près du cœur de Dieu, pour révéler sa pensée au peuple. » Quelle est pour nous maintenant la portée de cette expression « les serviteurs les prophètes » Il n'y a plus de prophètes en tant que tels, comme dans l'Ancien Testament, pour apporter au peuple la révélation de choses à venir. Mais il y a les prophètes et apôtres du Nouveau Testament. Les écrits prophétiques, mon cher frère M. Chaudier en parlait souvent, en Romains 16, le serviteur, le prophète de l'Éternel, c'est celui qui, maintenant dans l'Assemblée, présente la parole en rapport avec les besoins moraux du moment. Et la responsabilité dans l'Assemblée de chacun d'entre nous, sans aucune exception, c'est d'écouter. Et si au lieu d'écouter, continuons selon nos propres voies, Dieu ne peut manquer d'être obligé de châtier. Il fallait avoir écouté la parole du serviteur de l'Éternel, le prophète. Et si on avait écouté, alors tout se serait bien passé.
Qu'au verset 6e, personne ne peut dire « Je n'ai pas entendu, je ne savais pas ». Toutes les classes du peuple d'Israël sont touchées. Les serviteurs se sont adressés au nom de Dieu en disant « L'Éternel a dit à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Et c'est en fonction de l'expression de la volonté de Dieu adressée à chacun que Dieu peut exercer sa justice. Et Daniel le saisit particulièrement bien en s'adressant au verset 7, « À toi, Seigneur, la justice. » Il reconnaissait par cela que la déportation, jugement, terrible et tragique pour le peuple, dont Daniel souffrait d'une façon particulière, était un acte juste de la part de Dieu, ce que l'on a appelé le gouvernement de Dieu. Mais si Daniel en était resté là, c'était la négation même de cette bonté de Dieu qui se manifeste en compassion et en pardon. Et c'est ainsi qu'il s'adresse au Seigneur. Au verset 9, « Ô Seigneur, notre Dieu, sont les compassions et les pardons. » Pourquoi ces compassions et ces pardons? Parce que Dieu a fait des promesses et Dieu est fidèle pour tenir ses promesses. D'une manière, d'une façon, Dieu exige. Et d'une autre façon, Dieu, à cause de son nom et à cause de lui-même, agit en amour. Il y a toujours ces deux actions de la part de Dieu. D'un côté, notre responsabilité est engagée. Et d'un autre côté, Dieu n'a nullement besoin de nous. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu ne permet jamais que son nom, que sa gloire soit ternie. Jamais. Et c'est pourquoi nous pouvons toujours nous adresser dans les situations diverses que nous pouvons connaître, d'une part au Dieu de justice, et cela nous conduit à l'humiliation et à la confession, et d'autre part au Dieu de pardon, et cela nous conduit à l'amour de Dieu.
Une expression encore concernant cette justice. Daniel reconnaît ici la justice des voies de Dieu. Mais s'il s'adresse au Seigneur, et là c'est le Seigneur Adonai, s'il s'adresse seulement au Seigneur, à celui qui est juste, sur le pied de la justice, il n'y a pas de recours possible. Tu es juste, Dieu, dans ton gouvernement. Mais si tu en restes sur le pied de la justice, nous sommes perdus à tout jamais. Pourtant, un homme de Dieu autrefois avait pensé que le peuple de Dieu pourrait, sur le pied de la justice, être agréable à Dieu. Et si nous lisons en Deutéronome 6 une expression de Moïse, nous sommes un peu étonnés de voir ça dans la bouche de ce grand homme. C'est donc au départ, si on peut dire, de la route, verset chapitre 6 du Deutéronome et au verset 24. Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts, de craindre l'Éternel notre Dieu pour notre bien, toujours, pour nous conserver en vie comme il paraît aujourd'hui. Et ce sera notre justice, que nous prenions garde à pratiquer tous les commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Ce sera notre justice que que nous prenions garde à obéir à Dieu. Comme si le peuple, sur cette base d'une justice humaine, donc dans l'obéissance au commandement de Dieu, pouvait continuer à se tenir devant Dieu. En était capable. En était capable. Plus tard, l'apôtre Paul parlera un tout autre langage, c'est Philippiens 3. Philippiens 3, une expression que nous connaissons bien. Il peut dire de lui, parlant de lui, à cause duquel, chapitre 3, verset 8, j'ai fait la perte de toutes, et je les ai estimées comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je ne sois pas trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ. Non pas ma justice, mais celle qui est par la foi en Christ. Voilà un tout autre langage. Ici, et Moïse, plus tard aussi, voyant que sur le pied de la justice, tout est condamné, il n'y a pas de recours, pas de remède, fera appel dans ces épisodes que nous connaissons bien, Exode 32 à 34, à la miséricorde souveraine de Dieu. Ici, c'est la même chose que vient faire Daniel. Ils n'ont pas écouté, alors c'est justice, il est juste que dans tes voies tu nous aies châtiés, mais maintenant, Seigneur, à nous la confusion de face comme il paraît aujourd'hui, et c'est alors aux compassions de Dieu qu'il va faire appel. Quand on peut dire sur le pied de la justice, il n'y a pas de réponse, le cœur de Dieu trouve un moyen nouveau selon ses compassions pour apporter une réponse merveilleuse à l'état désespéré de l'homme.
À rapprocher ces trois confessions, ces trois chers serviteurs de Dieu dans les chapitres 9 de leurs livres respectifs, Esdras 9, Néhémie 9 et Daniel 9. Oui, encore mentionner quelques expressions que partagent ces trois confessions. D'abord, l'heure à laquelle Daniel s'est adressé à Dieu nous est présentée au chapitre 9 de Daniel, au verset 20. C'était le temps de l'offrande du soir, Daniel 9, 21. Le temps de l'offrande du soir, c'était la neuvième heure. C'était l'heure de la mort de Christ. C'est la même heure à laquelle nous trouvons Esdras, au chapitre 9 de son livre, qui se lève de son humiliation, Esdras 9, le verset 5. Et cela rejoint la pensée qui a été exprimée par notre frère tout à l'heure, le grand jour des expiations n'était-il pas autre chose que cette anticipation de la valeur de l'œuvre de Christ à la croix, pour que si les supports des péchés précédents dans la patience de Dieu étaient possibles de la part de Dieu, c'est parce qu'un jour Christ viendrait et accomplirait selon l'œuvre selon laquelle le péché serait aboli par le sacrifice de Christ. Il y a d'autres choses. En Esdras, nous avons également cet appel des serviteurs des prophètes, au verset 11, expression sur laquelle nous sommes déjà arrêtés plusieurs fois. Les éléments responsables du peuple, au verset 7 de Esdras 9, les rois, les sacrificateurs, tout l'ensemble du peuple. Donc cette confession englobe soit Esdras, soit pour Daniel, l'ensemble du peuple responsable. Dans Néhémie 9, nous avons une chose qui ne se trouve pas dans Daniel 9. C'est la double référence à l'alliance inconditionnelle de Dieu que Dieu avait faite avec Abraham et sa descendance, et la référence à l'alliance de la loi qui a été faite par Moïse. Nous ne trouvons en Daniel que la référence à la loi de Moïse, et non plus l'appel aux promesses inconditionnelles de Dieu faites à Abraham. En Néhémie 9, verset 7, tu es le même, tu as choisi Abraham et tu l'as fait sortir d'Ur des Chaldéens. Verset 8, tu fis avec lui une alliance pour donner le pays. Et la raison, tu as accompli tes paroles car tu es juste. Nous retrouvons la justice de Dieu. Mais en même temps, au verset 14 de Néhémie 9, tu leur prescrivis des commandements et des statuts et une loi par ton serviteur Moïse. Et au verset 17, tu es un Dieu de pardon, faisant grâce, miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté, tu ne les as point abandonnés, même quand ils se firent un veau d'or et qu'ils dirent, c'est ici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte, alors tu ne les abandonnas point dans le désert. Nous retrouvons exactement la pensée que notre frère exprime, que c'est au moment même où, dans le cas du veau d'or, le peuple, selon le commandement de la loi, ne pouvait pas subsister. Dieu aurait dû détruire son peuple. Il ne le voulait pas parce qu'il y avait la pensée que Dieu avait exprimée déjà dans l'alliance inconditionnelle avec Abraham. Donc Dieu a fait détruire par Moïse les tables de la loi. Et la loi était maintenant mélangée, unie à la grâce. Et cette grâce prend la forme de cette miséricorde en face de la misère et de la faiblesse du peuple. C'est la raison pour laquelle en Exode 33, c'est la première véritable mention de la miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et bien voilà le terrain sur lequel Daniel se tient. Il n'était pas selon Dieu qu'il en appelle à l'alliance antérieure faite avec Abraham. Le peuple était encore sous les conséquences en gouvernement de sa conduite. Et sur ce terrain de sa conduite, le peuple ne pouvait être condamné. Il ne pouvait être que celui qui resterait toujours à Babylone. Il n'était pas selon la pensée de Dieu qu'il le soit, donc il fallait que les compassions de Dieu interviennent. Le mélange merveilleux, et cela c'est selon Dieu seulement, de la justice de Dieu, de sa loi inflexible, du gouvernement, selon la responsabilité de l'homme créé comme être responsable. Et en même temps, la manière dont, en mystère, d'une manière tout à fait juste, Dieu peut faire compassion selon les richesses infinies et insondables de sa bonté et de sa grâce envers nous dans le Christ Jésus. Voilà la merveille des voies de Dieu à notre égard.